Ceux qui nous ont rejoints, voilà, soyez les bienvenus. Sans plus tarder, on va aller directement à la parole de Dieu, à ce que le Seigneur a déposé sur mon cœur, partager un thème qui va nous faire réfléchir ce matin concernant la grâce de Dieu, les voies de Dieu, la puissance du Seigneur. Et on va voir que Dieu est un Dieu qui nous étonne, qui nous étonnera toujours. C'est la réalité. On voit ces choses-là partout dans la Bible. Le titre du partage ce matin, c'est « Les inattendus de Dieu ». Il y en a beaucoup. À un moment donné, voilà, nous-mêmes, des fois, on pense que Dieu va agir d'une certaine manière. Et puis, on s'aperçoit que Dieu, il va toujours dépasser nos attentes. Alors, je vais le dire comme ça, des fois on attend le Seigneur, on dit, il va agir de telle ou de telle manière, on attend le Seigneur dans le zig, et il vient dans le zag. C'est comme ça que le Seigneur, il agit, il est toujours étonnant, et donc il dépasse beaucoup de choses, il dépasse nos attentes, il dépasse nos cadres, et même nos propres calculs. Un verset d'introduction pour réaliser que finalement il n'y a rien qui est étonnant pour notre Dieu. C'est Genèse, chapitre 18, verset 14. Genèse 18, verset 14. Là, il y a une question qui est posée ici, au début. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Alors, ces paroles dans le contexte, on va le voir un peu plus loin. Voilà, s'il y a eu un inattendu dans la vie de quelqu'un, c'est bien dans la vie de Sarah. Donc avec la promesse qui avait été là, et puis à un moment donné, cette promesse va s'accomplir. Et la question elle est posée, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? On pourrait répondre, ben non. Il n'y a rien qui est étonnant de la part de l'Éternel, parce que Dieu agit de plusieurs manières. Il est là même pour nous surprendre, et en toute chose, ce qu'il désire, le Seigneur, c'est nous révéler sa souveraineté sur toute chose. Dieu est souverain, il poursuit un plan, et il veut nous rendre participants à ce plan, donc il nous surprend pour nous révéler sa souveraineté, sa bonté, et également sa proximité. Aujourd'hui, ce matin, nous avons pu louer notre Dieu, mais si on a pu louer notre Dieu, c'est parce que lui-même, à un moment donné, il s'est approché de nous. C'est lui qui a fait le premier pas. Et on l'a béni, on l'a loué, chacun l'a fait selon ses moyens, et ça c'est extraordinaire. Alors, ce matin, les inattendus de Dieu, ou alors pourquoi parler d'un Dieu qui est surprenant? On sait que Dieu est amour, Dieu est grâce, Dieu est paix, Dieu est fidélité, bonté, toutes ces choses, tous ces qualificatifs, même, sont peu de choses pour réaliser finalement qui est Dieu. À la question du psalmiste, quand il pose cette question, mais qui est Dieu? Point d'interrogation, si ce n'est l'Éternel, qui est notre Dieu, si ce n'est donc le souverain maître de l'univers. Alléluia. Alors, oui, parler d'un Dieu surprenant, parce que l'être humain aime contrôler. Alors, pas vous, je sais. Pas vous. Mais voilà, l'être humain, il aime contrôler. L'être humain aime la prévisibilité, prévoir les choses. L'être humain aime qu'on lui montre un plan bien détaillé de sa vie. Et je dis ça, c'est un peu la petite parenthèse ce matin. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui font des recherches et aimeraient savoir ce que l'avenir va leur réserver. C'est pour ça que des personnes se tournent vers les médiums, les horoscopes. Qu'est-ce qui va m'arriver? Parce qu'en fait, c'est dans le cœur de l'homme que ces choses se passent, parce que l'être humain aime contrôler, il aime prévoir, et il veut avoir tout le plan de tout ce qui va se passer dans sa vie. Mais avec le Seigneur, c'est pas comme ça, vous le savez que ça se passe. Mais Dieu se révèle souvent dans l'inattendu. Et peut-être que ce matin, nous devons nous attendre à l'inattendu. Paradoxe. nous attendre à l'inattendu, mais à l'inattendu de Dieu. Et l'objectif de ce partage ce matin, c'est que, au travers de la parole, le Saint-Esprit puisse ouvrir nos cœurs dans, à la manière dont Dieu veut nous surprendre aujourd'hui. Alléluia. Trois choses que nous allons voir, on aurait pu partager encore beaucoup d'autres, mais surtout trois choses où le Seigneur nous surprend. Dieu nous surprend par ses voies. Ésaïe 55, versets 8 et 9. Ésaïe 55 est extraordinaire. On connaît bien Ésaïe 53, qui nous est parlé de cet agneau qu'on mène à la boucherie. Mais Ésaïe 55, également, bon, évidemment 54, mais 54, 55, voilà, et il y a une exhortation à venir auprès du Seigneur, à goûter, à voir ce que le Seigneur a, les choses qu'il a prévues pour chacun d'entre nous. Et donc, dans ce chapitre, versets 8 et 9, il est dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. » Et il va mettre une comparaison au verset 9 en disant « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Amen. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Donc on voit ici au travers de ce verset, de ces deux versets, que ce Seigneur parle et il dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées. » Si on arrivait à faire le tour de Dieu, alors j'aimerais vous dire que Dieu ne serait pas Dieu. Dieu est au-dessus de nos pensées, il est au-dessus de nos voies. Et souvent, le Seigneur va choisir des inattendus, des voies inattendues, des moyens inattendus pour nous révéler, et révéler finalement sa puissance, sa grâce, son amour, son plan. Donc ça, c'est des choses extraordinaires. Dieu choisit, il choisit des chemins inattendus. Et il y a cet exemple, si, je ne sais pas, hein, moi, je me dis, s'il avait fallu qu'à un moment donné, je puisse sélectionner un libérateur pour le peuple. Je ne suis pas certain que j'aurais choisi Moïse. Ce n'est pas sûr. C'est même sûr que non. Parce que lui-même, alors qu'il devient un fugitif, Il fuit parce qu'il vient de faire une chose terrible. Il vient de tuer, il vient d'assassiner une personne. Sous couvert, il pensait être dans le droit chemin. Et puis, il a peur pour sa vie, il fuit. Et ce fugitif-là va devenir un libérateur pour le peuple de Dieu. Plus de 400 ans d'esclavage. Et le Seigneur va dire, c'est toi. C'est toi, Moïse, que je choisis pour aller libérer mon peuple. Vous vous souvenez dans Exode 3, quand le Seigneur donc il va le faire dérouter par un moyen étonnant, le buisson ardent. Ce buisson ardent avait la particularité qu'il ne se consumait pas, et ça va attirer l'attention. Et souvent le Seigneur, il agit comme ça envers chacun d'entre nous. Il essaie d'attirer notre attention pour dire « Je suis là, je suis le grand Dieu de l'univers ». Réfléchis à certaines choses, réfléchis à qui tu es. Donc ce fugitif va devenir un libérateur. Dans ce chapitre 3 de l'Exode, on a un dialogue entre Dieu et Moïse. Et puis donc Dieu lui dit, ben Moïse, tout d'abord, voilà, ôte tes sandales, hein, parce que le lieu où tu te tiens, c'est un Dieu qui est saint. Hein, voilà, il était saint par rapport à la présence de Dieu, c'était pas le lieu géographique. Et donc, il y a un dialogue qui s'installe, et puis Dieu, en fait, est en train de lui révéler une partie du plan. Et lui, je t'ai choisi, tu vas être le libérateur. Alors, je ne sais pas ce que vous aurez répondu, vous. Mais moi, je comprends très bien Moïse qui dit, mais Seigneur, c'est impossible, en fait. Je viens de cet endroit. J'ai fui cet endroit. Et la dernière chose dont j'ai envie, c'est de retourner de là où je viens. C'est tellement logique. Et là, il y a un message peut-être pour chacun d'entre nous également. Donc, que le Seigneur est capable d'utiliser qui il veut, avec ses faibles moyens. D'ailleurs, il va les mettre sur la table. Lui, souvent, Moïse, il va mettre sur la table, dans ce dialogue avec Dieu, ses incapacités. Il dit, Seigneur, je ne peux pas, Seigneur, voilà, je suis incapable, je m'exprime très mal. Certains disent qu'il avait un bégaiement prononcé. Et le Seigneur, dans toute sa grâce, il dit, mais je vais te solliciter ton frère qui va t'aider. Et souvent, le Seigneur est dans une direction, dans une église. Je l'ai dit, je crois, il y a 2 ou 3 semaines, que moi, je bénis Dieu parce que le Seigneur, il nous met pour la direction d'une église, la direction spirituelle d'une église. Et puis, le Seigneur, dans cette église, et il qualifie, il se sert de personnes qui ont des qualités pour qu'ensemble, nous puissions travailler à l'œuvre de Dieu. Alléluia, ça c'est extraordinaire. C'est quelque chose qui a toujours réjoui mon cœur, de savoir qu'il y a des choses que je suis bien incapable de faire, et pourtant d'autres sont capables de les faire, et donc ensemble, on veut faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Un fugitif qui devient libérateur, et puis à un moment donné, il va quand même accepter. Vous savez comment ça va se passer, des choses extraordinaires. Mais il y a le test. Il y a le test qu'il a par rapport à la foi de Moïse, parce qu'il est dit, c'est toujours étonnant, donc dans les inattendus de Dieu, on s'aperçoit que les magiciens du Pharaon, ils vont faire également, ils vont reproduire les mêmes miracles. Or, étonnant. Mais quand même, il y avait une onction particulière dans la vie de Moïse. Et peut-être que ce matin, pour quelqu'un, de se dire, finalement, nous étions nous-mêmes des fugitifs. Vous vous rappelez, quand Adam et Ève désobéissent au Seigneur, vers le soir, il est dit, le Seigneur descendait dans le jardin et va poser cette question. Adam, où es-tu ? À partir de ce moment, dès que le péché est rentré dans le cœur de l'homme, l'homme ne cesse de fuir le contact de Dieu. Parce qu'en fait, dans la présence de Dieu, automatiquement, il y a la noirceur du péché qui va rejaillir. C'est comme ça. Donc, il fuit, et pourtant, donc nous-mêmes, nous sommes des fugitifs. Et puis le Seigneur, moi je bénis Dieu. Vous savez que dans les inattendus de Dieu, Dieu s'est servi de Moïse. Dieu peut se servir de chacun d'entre nous ici. Ce matin, pour parler à quelqu'un. Je disais hier à un couple, le fait d'annoncer une parole de Dieu, le fait de pouvoir dire que Dieu est vivant, qu'il existe, qu'il a un plan pour la vie de quelqu'un, c'est une histoire de vie ou de mort. C'est quand même assez important. Mais Dieu veut nous utiliser. Et il n'y a pas de plus grande joie ce matin. Lauriane nous a conduit dans ce thème de la joie, merci Seigneur, et il n'y a pas de plus grande joie que de pouvoir conduire quelqu'un à se tourner vers le Seigneur, à donner sa vie au Seigneur, alors évidemment c'est le début, et puis l'entourer pour que à son tour, cette même personne devienne forte pour qu'à son tour, il puisse transmettre quelque chose de Dieu et montrer que la direction, que le chemin, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc dans les inattendus de Dieu, un fugitif qui devient libérateur, un berger qui devient roi. Et là, on s'aperçoit que c'est un inattendu. C'était tellement inattendu que quand le prophète va venir pour oindre le nouveau roi choisi de Dieu, ce n'est pas n'importe qui a fait le choix. Dieu qui fait un choix et dire, voilà, je me suis choisi un roi. Tu vas aller dans cette maison et tu vas l'oindre. Alors, l'erreur qu'a pu faire Samuel, on l'aurait tous faite, cette erreur. Il va voir l'aîné des fils, le grand frère de David, et dire, mais assurément, c'est celui-là. Parce qu'il a regardé à ce que lui pouvait voir. Mais lui, le Seigneur, il regardait, qu'est-ce qu'il regardait à l'intérieur ? Il regardait que, dans le cœur de David, alors qu'il n'était même pas là, même pas convoqué pour prétendre au moins à être sélectionné. C'est comme ça. Puis il dit, oui, effectivement. Alors les fils passent. Ah, effectivement, j'en ai un. Il est en train de garder le troupeau. Puis on s'aperçoit au travers de certains psaumes que c'est là, en fait, où il a grandi dans sa relation avec Dieu. Il avait ce cœur à cœur avec le Seigneur. Il avait, sa vie était centrée sur Dieu. Et Dieu va se servir de lui. Donc un petit berger qui va devenir le roi, le grand roi finalement d'Israël, avec une marque réelle et profonde. Et j'aime beaucoup la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, elle nous montre pas, ou elle nous relate pas certaines histoires comme voilà des belles histoires ou un joli film, hein. Donc à un moment donné, tout se termine bien, tout se passe comme il faut, mais il nous montre également la noirceur du cœur. L'homme qui a été appelé, l'homme selon le cœur de Dieu, il a fait des choses abominables, pour nous montrer que finalement c'était un homme de la même nature que nous, et si c'était pas la grâce de Dieu qui le soutenait, alors il était capable de pécher et faire des choses atroces. Oui, un berger qui va devenir roi. Il y a également, dans les chemins inattendus, une jeune fille qui devient porteuse du Messie. Je ne sais pas si on réalise dans quel état d'esprit. On le voit au travers du cantique qu'elle a pu composer, Marie. Alors certains vont la diviniser. Alors surtout pas, on respecte, évidemment, on respecte Marie qui a porté donc l'enfant Jésus. Elle a été choisie. Mais en tout cas, il n'y avait rien de divin en elle, hein, donc elle avait également ses faiblesses, ses travers, et pourtant elle a été choisie. Et d'ailleurs, elle va le dire quand elle va donc s'exprimer au travers d'un chant, et une grâce m'a été accordée. Une grâce m'a été accordée. Alléluia. Amen. Vous voyez, des fois, ça commence avec des petites choses, et puis le Seigneur se sert de qui il veut finalement pour faire son œuvre. Et Marie va porter dans son sein, et elle était au courant, parce que, vous le savez, hein, c'est l'ange qui va venir lui dire, mais voilà, l'enfant va naître de ton sein. Donc elle était pleinement au courant qu'elle portait le Messie, parce qu'elle-même, elle a été élevée avec cet enseignement de dire qu'un jour le Messie va venir. Un jour, le Messie va venir pour libérer donc Israël, libérer le peuple, et par répercussion, avec le temps, va libérer le monde entier. Et l'ange va lui dire, c'est toi qui as été choisi. Alléluia. Amen. Donc, chose extraordinaire. Il a choisi, c'est des chemins inattendus. Et puis, également, dans ces chemins inattendus, il y a des paradoxes. Dieu renverse la logique humaine. Vous savez, ces fameux paradoxes. Le dernier deviendront les premiers, dans l'autre sens aussi. Ce qui nous montre que l'ordre de Dieu n'est pas forcément le même que nous. Nous, souvent, voilà, on se bat, en tout cas l'être humain, je parle en général, se bat pour être le premier, et le Seigneur dit, les derniers deviendront les premiers. Un autre paradoxe, les faibles deviennent forts. Et ça, c'est l'apôtre Paul qui va le dire. Il va dire, mais quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand il parle de faiblesse, il parle de cette faiblesse humaine en disant, Seigneur, finalement, je suis bien incapable de pouvoir m'approcher de toi ou de faire quelque chose pour toi. Mais Dieu se plaît d'utiliser la faiblesse. J'en suis un exemple frappant ce matin devant vous, et au milieu de nous, il y en a beaucoup, évidemment. Dans la faiblesse, on est tremblant quand on a la responsabilité de parler de la part du Seigneur au peuple. Ça ne se fait pas à la légère. Il y a une préparation dans la présence du Seigneur, mais toujours avec un état de faiblesse. Et maintenant, vous le savez, depuis le temps que nous sommes au milieu de vous, j'aime beaucoup prêcher par la faiblesse. Parce qu'à un moment donné, c'est quelque chose qui venait me faire réfléchir. Quand du haut de l'estrade, certains pouvaient apporter un message où il semblait que rien ne pouvait les atteindre et qu'eux, ils étaient arrivés à un état, finalement, de perfection. En tout cas, c'est comme ça que je percevais. Et voilà, moi, souvent, je le dis, vous m'avez entendu le dire, on prêche au travers de la faiblesse, en disant, on a des combats, on a des luttes, on a des tentations, mais on a compris certains principes de la parole de Dieu, on essaie de les appliquer par sa grâce, puis le Seigneur nous utilise puissamment, et que le Seigneur puisse encore nous utiliser puissamment, chacun d'entre nous, alléluia, pour la seule gloire de ton nom. De son nom, alléluia. Alors, l'application pour nous, Dieu n'est pas limité par nos capacités, par nos ressources, ou même par notre passé. J'ai pleinement réalisé également que certains font une belle conversion, une belle révélation. Dieu se révèle à eux, donc ils donnent leur vie au Seigneur. Et puis, à un moment donné, il y a des blocages qui viennent là. Des blocages, des choses qui viennent mettre donc un blocage face à ce rouage de la normalité de la vie chrétienne. Et le Saint-Esprit nous est donné. Pas simplement pour trembler, hein, on a parlé un peu vendredi, hein, pas simplement pour nous faire trembler, mais pour nous enseigner qu'il y a des choses que le Seigneur veut faire dans nos vies. Il ne le fera jamais sans notre accord. Il va toujours nous proposer en nous disant, voilà ce que je veux pour toi, voilà ce que je veux faire dans ta vie, voilà ces choses que tu portes dans ton cœur, elles ne sont pas bonnes pour toi, il faut que tu les coupes. Et il y a toujours une part qui nous incombe, qui nous revient à nous, prendre déjà le choix de se dire, Seigneur, oui, je reconnais qu'il y a un blocage dans ma vie. Et les blocages, ils peuvent avoir, à un moment donné, oui, leur signification, souvent, hein, au niveau de la psychologie, l'enfance, on remonte à l'enfance, certains blocages. Alors, évidemment, hein, une part de vérité. Mais la finalité, c'est que Dieu veut nous guérir de tous nos blocages, alléluia, pour nous rendre libres. Et c'est ce que fait le Saint-Esprit dans nos vies, amen. Alors, Dieu n'est pas limité par nos capacités, nos ressources, ou même notre passé. Il peut surprendre dans la direction. Il peut nous surprendre dans le timing. À un moment donné, quand tout semble perdu, c'est là où le Seigneur agit. Alléluia. Et même dans la méthode. Alléluia. Amen. Donc on s'aperçoit que les voies, nos voies, ne sont pas les voies de Dieu. Donc les inattendus de Dieu dans finalement les voies. Et Dieu nous surprend par les voies dans lesquelles il nous mène les uns et les autres. Puis Dieu nous surprend également par sa grâce. S'il y a vraiment un passage qui doit nous bousculer, qui doit nous faire réfléchir sur la grâce donc de Dieu qui est accordée à ce jeune homme révolté, qui en a marre de rester chez son père, qui va lui demander son héritage, il va dire « donne-moi la part qui me revient hein, », quelle ingratitude, je sais pas en tant que parent, hein, alors qu'on est vivant, que nos enfants nous demandent l'héritage. Je ne sais pas quelle serait notre réaction, mais en tout cas, le père, il ne discute pas les opinions, il lui donne l'héritage. Vous connaissez l'histoire, il va dilapider donc, cet héritage, et quand il va se retrouver dans le besoin, il y a une prise de conscience. Et en fait, quand on parle de la grâce, quand on parle que Dieu surprend par sa grâce, peut-être que, alors je vais dire moi, peut-être que moi, au retour du fils, je lui aurais fait des reproches. J'aurais voulu lui dire, tu sais, je t'avais averti, tu ne m'as pas écouté. Tu as fait, comme bon te semblait, regarde maintenant le résultat. En tout cas, peut-être, même sûrement, que j'aurais réagi comme ça. Ce n'est pas le cœur du Père. C'est une parabole que Jésus a racontée pour nous faire comprendre que la grâce de Dieu, elle dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Tout ce que l'on peut comprendre, la grâce de Dieu, personne ne peut la mesurer, personne. D'ailleurs, alors encore une fois, je ne sais pas vous, mais moi quand je lis la parole de Dieu, quand je regarde cette parabole, une autre parabole, la parabole des ouvriers de la dernière heure. Moi je suis comme ceux qui à un moment donné reçoivent le salaire et qui disent, mais en fait c'est pas juste. C'est pas juste. Certains ont travaillé toute la journée, d'autres ont travaillé qu'une heure, et ils ont le même salaire. Et en fait, le message de cette parabole, c'est que Dieu est un Dieu de grâce. C'est la grâce de Dieu qui la distribue à chacun comme il veut. Et cette grâce, elle est accessible à chacun d'entre nous. Je ne l'ai pas mis ce matin, mais on pourrait se rappeler que dans Éphésiens, il est dit que c'est par grâce que nous sommes sauvés. Par quel moyen? Par le moyen de la foi. Et il met l'accent pour dire, mais cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu, alléluia, pour nous tous. Amen. Cette grâce, nous en sommes au bénéfice. Amen. Donc Dieu surprend, c'est le Père qui surprend le Fils prodigue par une grâce démesurée. Parce que finalement, peut-être qu'il aurait mérité une sanction. Peut-être qu'il aurait mérité une leçon, hein, ce jeune, qui, d'ailleurs il est prêt à ça. Hein, c'est, la parabole nous dit que Il va se dire, j'irai voir mon père, je vais lui dire, j'ai péché contre toi, contre le ciel. Je ne suis même pas digne d'être appelé ton enfant. Quand donc la silhouette du fils, le père le voit, il court vers lui. Et donc c'est la grâce qui dépasse toute logique. Parce qu'à cette époque-là, de par les patriarches, ce n'était pas leur position. Ça nous montre que le Seigneur va au-delà. Il va remonter, parce qu'à cette époque-là, on portait des grandes robes. Il va remonter sa robe pour aller courir à l'encontre de son fils. Quelle grâce extraordinaire. Et le Seigneur le fait avec chacun d'entre nous. Non seulement il le fait une fois, mais le Seigneur va le faire autant de fois qu'on ait besoin de cette grâce. Autant de fois que nous ne sommes pas à la hauteur. Autant de fois que nous chutons et que nous demandons pardon au Seigneur. Dieu, c'est l'image, il remonte donc sa robe. Alors l'image, elle est, quand on parle comme ça, c'est un peu déstabilisant. Remonte sa robe pour venir nous embrasser, nous enlacer. C'est ça la grâce de Dieu. Et souvent, on va vivre avec une certaine culpabilité. Je ne sais pas vous, mais si on réfléchit ce matin, le Dieu qui court vers nous, qui nous prend dans ses bras, alors à un moment donné, de quoi allons-nous culpabiliser, hein ? Des fois, les blocages peuvent venir également de là. Le Père qui court vers le Fils. Il restaure avant même d'exiger une explication. Le Père lui demande aucune explication. Nous, souvent, on est comme ça, hein ? Faut expliquer. Il donne plus que ce qu'il mérite, le veau gras. Et vous savez quoi ? On va se réjouir, on va faire la fête. Encore une fois, ça peut nous déstabiliser, nous. Faire la fête, en tant que bon Français, c'est difficile. Une fois, un jour, quelqu'un disait, vous savez, vous les Français, alors c'est un étranger, pour faire la fête, c'est comme déplacer une vieille commode. C'est assez difficile. Il y a d'autres populations, ils ont cette facilité de pouvoir faire la fête. Moi, la fête, je la vois dans la parole de Dieu. On la retrouve souvent. Et nous, souvent, on va être réduits parce que, voilà, on est comme ça. Souvent, on dit, nous, hein, en France, ça se passe à l'intérieur. Merci Seigneur, hein, que ça se passe à l'intérieur, bien sûr. Mais à un moment donné, c'est tellement fort qu'il faut que ça sorte. Il faut que... Alors, pas pour mettre plein la vue à qui que ce soit, mais pour glorifier notre Seigneur. Alléluia, que Dieu soit béni. Donc, il ne demande aucune explication, il donne plus que ce qu'il mérite, le veau gras. Alors, c'est une grâce qui peut choquer. Cette grâce-là, elle peut choquer. Vous vous souvenez qu'à un moment donné, Jésus, je ne sais pas si on l'aurait fait, il va répondre à l'invitation des gens de mauvaise vie. Il va aller dans leur maison. Et ça va lui coûter, finalement, qu'on le critique. Mais qui est cet homme ? Il se prend pour un prophète et puis il va manger avec les gens de mauvaise vie. La réponse, ce n'est pas les bien portants qui ont besoin de docteurs. C'est ceux qui sont malades. Et donc, ça nous montre également qu'on doit se rapprocher de ceux et de celles qui sont loin du Seigneur. On a voulu nous montrer, à un moment donné, que pour vivre sa foi en connexion avec le Seigneur, il fallait s'isoler dans un endroit, dans une haute montagne, pour avoir ce cœur à cœur avec le Seigneur. Je ne crois pas à ça. Moi, je crois que nous sommes devenus, on devient des témoins. Nous devenons des témoins quand le Seigneur se révèle à chacun d'entre nous et on doit avoir des connexions avec les uns et les autres. Mais surtout pas se laisser influencer par ceux qui ont l'esprit du monde, garder sa neutralité par rapport à certaines choses, ne pas se mélanger, vous le comprenez très bien. Mais avoir des connexions pour qu'au moment opportun, quand la question va se poser, pour dire, vous savez quoi ? Le seul chemin, c'est Jésus. La seule vérité, c'est Jésus. La seule vie, c'est Jésus. La Bible le dit, je l'affirme parce que je l'ai vécu. C'est tout simplement ça, la transmission. Alors, oui, Jésus mange avec des pécheurs. Une grâce qui peut choquer également. Il pardonne la femme adultère. La femme adultère, les pharisiens avaient raison. La sentence, c'était la lapidation. C'était ce que la loi prévoyait. Ce qui nous montre que Jésus va au-delà de la loi, et cette grâce, elle va au-dessus de tout entendement. Donc, il va pardonner cette femme adultère. Il va lui dire, femme, où sont ceux qui t'accusent ? Donc, elle lève les yeux, ils ne sont pas là. Par contre, il lui fait une recommandation. Va et ne pêche plus. C'est ça la recommandation. Cette grâce, également, elle peut nous choquer. Également dans la sélection pour constituer les 12 disciples qui vont devenir les apôtres, est-ce qu'on aurait choisi un collecteur d'impôts ? Est-ce qu'on aurait choisi des alors je le dis comme ça, que personne ne se choque, mais on le voit dans leur état d'esprit, dans leur réaction, des gens qui étaient racistes. Eux, c'était qu'Israël, et puis point final, ça s'arrêtait là. Il y avait des nationalistes dans ce groupe-là. On va dire quoi, c'est comme si Jésus, dans la sélection des 12 disciples, en fait, il va sélectionner ceux qui avaient des grosses difficultés, des grosses carences. En fait, le Seigneur nous montre que c'est valable pour chacun d'entre nous. Nous sommes logés à la même enseigne parce que nous sommes tous des pécheurs, tous privés de la grâce et de voir la gloire de Dieu. Pourtant, un jour, le Seigneur vient, se révèle à nous. Et l'apôtre Paul, il dit, mais à moi qui suis le moindre des apôtres, le Seigneur s'est révélé à moi. Et c'est ce qui procurait finalement cette force, cette énergie, on va le dire, pour aller proclamer encore ce message, que Dieu soit béni, alléluia. Il appelle Matthieu, un collecteur d'impôts. Moi j'aime beaucoup ce dialogue avec le Seigneur Jésus. Vous avez vu à quelle vitesse ça va ? Jésus voit Lévi assis là au poste de péage. Il lui dit, Lévi, suis-moi. La suite, Lévi se leva et le suivit. Waouh ! Nous n'aurons pu dire, Seigneur, où ? Mais dis-moi où, au moins, que je sache. Seigneur, attends que j'aille voir et préparer ma valise. Non, ça semble logique. Et souvent, on tarde à répondre à l'appel que Dieu nous lance. On va faire ceci, on va faire cela avant. Voilà, qu'il y ait de la spontanéité. Dieu nous surprend par une grâce qui restaure, une grâce qui révèle, une grâce qui pardonne et une grâce qui nous transforme. Alléluia. Et tous ceux qui grandissent, qui mûrissent, donc avec le Seigneur, ce sont ceux qui réalisent la grâce qui leur a été accordée. Et en signe de reconnaissance, ils offrent leur vie au Seigneur. Ils disent, Seigneur, ma vie, elle t'appartient, elle est à toi. Que voilà, tu puisses faire de ma vie ce que bon te semblera. Il transforme nos cœurs, il transforme nos vies. Il surprend même ceux qui pensent déjà bien le connaître. Certains certaines des années d'expérience. Des fois, il peut arriver de se dire, mais je connais Dieu, je connais les choses de Dieu, c'est amplement suffisant. Mais Dieu veut nous surprendre encore. Peut-être pour celui et celle au milieu de nous ce matin, qui a le plus d'expérience, qui a donné sa vie il y a des dizaines et des dizaines d'années. Il y a encore des choses nouvelles que le Seigneur veut vous révéler. Alléluia. Avec le Seigneur, tant que nous sommes ici-bas, il n'y a rien qui soit terminé. Amen. Et puis, ce troisième point où Dieu nous surprend par sa puissance. Toujours. Dieu est puissant, on est d'accord ? Éphésiens 3:20 nous dit, or, à celui qui peut faire, par quoi ? Par la puissance qui agit en nous. Il peut faire quoi ? Infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Il agit là où tout semble impossible. Le peuple, donc libérateur, Moïse, Dieu suscite un libérateur, il se retrouve face à une mer. Impossibilité. La mer Rouge est ouverte. Le Seigneur les fait passer à sec. Dieu prend soin des petits détails. Alléluia. Les murailles de Jéricho. Je ne sais pas si vous êtes comme moi quand vous lisez comment le moyen que le Seigneur a prévu. Vous allez faire le tour de la ville et vous allez sonner de la trompette. Vous les voyez là ? En train de se poser la question, comme Josué va dire, voilà, j'ai reçu de la part du Seigneur, peut-être un peu tremblant, hésitant. Vous savez quoi ? J'ai reçu un message du Seigneur pour remporter la victoire. Alors on sent l'excitation au niveau du peuple. Oui, dis-nous. Mais il faut faire le tour de la ville et avec la trompette. Et de se dire, mais qu'est-ce que tu nous racontes? Qu'est-ce que tu as pris comme produit pour nous raconter cette drôle d'histoire? Et pourtant, c'est le moyen que Dieu a prévu, un moyen étonnant. Ce qu'il attendait, le Seigneur, c'est de se révéler dans toute sa gloire et dans toute sa puissance. C'est la réalité. Et également, il attendait que le peuple obéisse. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et comme ils ont obéi, ils ont reçu la victoire. Que Dieu soit béni. Amen. Les murailles de Jéricho sont tombées. Et puis, dans les moyens, là où tout semble possible. Là, encore une fois, si ce n'était pas écrit dans la parole de Dieu, on aurait du mal, déjà ne serait-ce qu'à le comprendre. Puis derrière ça, il y a d'autres questions, nous, en tant qu'êtres humains, qu'on peut se poser. Lazare, il est mort depuis 4 jours. Alors la question, son âme, elle était où? Je ne sais pas. Je ne sais pas. La Bible ne le dit pas. Je ne sais pas. On ne peut pas extrapoler outre mesure. Des fois, à se poser des questions où on n'aura pas de réponse, on risque de perdre la tête, à un moment donné. On ne sait pas. Mais Lazare, il va ressusciter 4 jours après. Il y a même ce petit détail, il commençait à sentir. Alors, encore une fois, il y a une petite particularité au niveau du message du Seigneur. Le Seigneur va dire, quand Lazare sort, c'est l'appel de Dieu pour les perdus. Sors de ta misère. Sors de ton péché. J'ai une nouvelle vie pour toi. C'est ça l'image. Le Seigneur dit, déliez-le. Et ça, c'est l'image de l'Église. C'est l'Église qui doit œuvrer pour l'œuvre de Christ pour que les personnes qui viennent soient libérées de ce qui peut les bloquer, de ces fameuses bandelettes qu'ils pouvaient avoir. Donc oui, quand tout semble impossible, le Seigneur agit. Il agit souvent au moment où on ne s'y attend plus. On l'a lu dans le verset d'introduction. Abraham et Sarah reçoivent un fils dans leur vieillesse. Ne serait-ce que, au niveau du fonctionnement humain, impossible, à l'âge qu'ils avaient. Impossible que ça refonctionne. Vous comprenez de quoi je parle? Et pourtant, le Seigneur va agir de façon extraordinaire. Pierre, libéré de prison. Alors ce passage-là aussi, il était extraordinaire. Pierre est emprisonné, l'Église prie pour lui, il frappe à la porte. Il ferme la porte, il croit voir un fantôme, il dit « mais c'est pas possible ». Alors après, on peut se poser la question « mais pourquoi ils ont prié ?» Souvent, on est comme ça. Donc Pierre est libéré de sa prison pendant que l'Église doute encore. Les disciples voient Jésus calmer la tempête après avoir paniqué. À des moments où on s'y attend plus. On peut l'envisager comme ça, quand il y a eu cette tempête. Ils ont dû essayer de régler le problème donc avec leurs propres moyens. Voyant qu'ils n'y arrivaient pas, ce que nous dit le passage, ils vont réveiller Jésus. Ne perdons pas de temps, frères et sœurs. Dès qu'il y a quoi que ce soit, réveillez Jésus, non pas qu'il dorme, c'est juste une image. Réveillez Jésus, allez voir Jésus, parlez de votre problème à Jésus. Parlez de ce qui vous tracasse. Parlez à Jésus de ce qui peut vous accaparer. Même dans les petits détails, des fois on dit, j'ose pas déranger. Mais si, il faut déranger Jésus. Alors lui, il ne sommeille ni ne dort, il ne dort pas, le Seigneur. Mais il attend qu'on puisse venir l'interpeller. Alléluia. Oui, Dieu nous surprend pour des percées soudaines. Il surprend avec des réponses inattendues. Il surprend par des miracles qui dépassent même nos prières. On l'a lu ensemble. Il peut faire infiniment au-delà. Je suis sûr, si on prendrait le reste du temps et de l'après-midi, ne serait pas suffisante pour dire un témoignage. Je vous donne le micro. Racontez-moi, à un moment donné, vous avez prié, vous étiez dans une situation, il y avait un blocage. Voilà, c'était terminé. Vous avez prié le Seigneur et puis ça s'est débloqué. Certains sont comme moi. Vous avez vécu ces choses-là, évidemment, parce que ces choses-là, elles sont encore valables de nos jours. Amen. Alors, je vais terminer parce que Dieu surprend pour transformer nos attentes. Il veut qu'on apprenne à lui faire confiance, une confiance absolu. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que la surprise divine n'est jamais un chaos. C'est un enseignement. Il veut nous apprendre certaines choses. Il nous détache de nos plans pour nous attacher à sa volonté. Souvent, nous-mêmes, « Seigneur, montre-moi quelle est ta volonté. » Et puis le Seigneur montre sa volonté, il dit ben, « je ne suis pas content. » Moi, j'aurais aimé que tu fasses ceci, que tu fasses cela. Mais qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour pouvoir dire ces choses-là à Dieu? Il faut savoir que tout ce que Dieu nous donne est bon pour nous tous. Alléluia. Donc, il nous détache même pour, de nos plans pour nous attacher à sa volonté. Dieu élargit notre vision. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais d'Ésaïe 54. Élargis l'espace de ta tente, nous dit Ésaïe 54. Élargis. Sois large. Pas au niveau physique, hein. La vie se charge de ça. Vous avez remarqué, hein. Eh oui, mais élargir à l'intérieur, élargir dans la compréhension de qui est Dieu, élargir dans ma connaissance, dans mon intimité avec Dieu, c'est ça, hein. Élargir notre vision. Je ne sais pas si, je suis sûr que non, je vous pose la question comme ça, si on est résolu juste à rester le groupe que nous sommes. Ou alors nous désirons aller de l'avant, gagner des âmes pour le royaume de Dieu. Pas pour dire, vous savez quoi, Sainte-Agne, c'est une belle église, il y a ceci, il y a cela, c'est pas pour ça. Même si on peut le dire, il n'y a aucun souci. Hein. Mais c'est pour gagner des âmes, que des âmes soient arrachées à l'enfer, arrachées aux ténèbres. Si nous n'avons pas ce fardeau dans nos cœurs, c'est qu'il manque quelque chose. Parce que quand on est proche de Dieu, instinctivement, le Seigneur va déposer ce fardeau dans nos cœurs. D'ailleurs, tout ce que nous faisons, c'est pour que sa gloire se manifeste et que l'Esprit puisse venir toucher des hommes et des femmes. Juste pour vous encourager, je l'ai dit cette semaine, c'est que j'ai reçu un coup de fil il y a quelque temps d'une personne qui me disait, voilà, je recherche Dieu, puis j'ai fait un peu le tour, j'ai écouté vos prédications que vous mettez en ligne, c'est vous qui êtes le plus proche de la vérité, gloire à Dieu, hein. Mais on n'est pas là pour en tirer la gloire. Mais le but, et pourquoi je vous dis ça ce matin, c'est pour qu'on puisse prier pour que cette dame, on l'a rencontrée cette semaine avec Henriette, on lui a expliqué le chemin du salut. Donc, c'est pour que cette femme soit arrachée et qu'elle puisse finalement trouver ce qu'elle cherche depuis tant d'années. Alléluia, que le Seigneur soit béni. Mais ça va se faire dans la mesure où on sort de notre confort, où on va sortir de nos habitudes, où il va falloir faire le mille supplémentaire, il va falloir faire des choses en plus. Elle dit, mais j'ai pas le temps, parce que ceci, parce que cela, certes. Mais moi, je dis que quand on veut, on essaie de trouver des solutions, quand on ne veut pas, on trouve des excuses. Dieu élargit notre vision, nos attentes sont souvent trop petites. Dieu nous surprend pour nous amener plus loin que prévu. Il nous prépare à vivre l'inattendu du royaume. Le royaume n'est pas statique, il est en mouvement. On le voit plus que jamais. Des fois, on aurait également une certaine vision d'un réveil. Vous savez, quand on lit certains réveils ou alors l'histoire, il y a eu beaucoup de réveils, hein, surtout au début du XXe siècle. Beaucoup de réveils. Et quand on voit les réveils, voilà, tout ce qui s'est passé, on est quand même assez surpris. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de vivre un réveil extraordinaire. Des hommes, des femmes se tournent vers le Seigneur régulièrement. Les églises se remplissent. On était en congrès avec tous les pasteurs de France. Et on se retrouve avec des églises qui ont construit, donc avec une certaine capacité. Au bout de quelques mois, ils sont en train de réfléchir parce qu'en fait, l'église est devenue trop petite, gloire à Dieu, en France. Avec tout ce qui se passe, avec peut-être on peut se dire la dureté des cœurs, ceci ou cela. Le Seigneur est en train de faire une œuvre. Alors nous voulons être participants à cette œuvre. Nous voulons vivre l'inattendu du royaume, un royaume qui n'est pas statique, il est en mouvement. Un royaume en pleine expansion, mais nous voulons nous rendre disponibles au Dieu surprenant. Dieu veut encore surprendre aujourd'hui. Peut-être que quelqu'un a perdu quelque chose dans son cœur. À un moment donné, voilà, il s'attendait à Dieu, puis on a mis ces choses-là, peut-être des promesses. On les a relégués, on les a laissés, on les a enfouis et dit, ben, c'est terminé, le temps a passé, c'est terminé. J'aimerais vous dire, et c'est l'objet finalement de ce partage, que Dieu n'a pas encore terminé avec aucun d'entre nous. Alléluia. Ses promesses, elles sont en cours. C'est ce que nous dit le livre d'Habacuc. Si la promesse, elle tarde, écris-la, parce qu'elle est en chemin. Elle va se réaliser. Si c'est dans la volonté de Dieu et que Dieu vous a donné donc cette parole, alors oui, ça va s'accomplir. Finalement, nous-mêmes, c'est de rester dans cette attitude de confiance et de dire, Seigneur, je te fais confiance. Même si les éléments nous montrent le contraire. On en discutait ce matin avec certains. Des fois, on prie pour nos bien-aimés. Puis on voit comme certaines personnes qui s'enfoncent davantage. On ne doit pas se focaliser sur ce que l'on voit, mais on doit se focaliser sur ce qu'on ne voit pas. Alléluia. Et prier, dire, Seigneur, je te prie pour voilà, ma petite fille, mon enfant, Seigneur mon Dieu, un mari, une femme voilà, qui n'est pas au Seigneur, un membre de la famille. Seigneur, je veux continuer de prier, Seigneur Jésus-Christ, et je m'attends à ton inattendu, que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Mais pour cela, il faut abandonner notre propre contrôle et s'attendre au Seigneur, ouvrir son cœur à Dieu et attendre l'inattendu, que Dieu soit béni. Alléluia.